là, là. Là, 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 là.
Télégramme.
Télégramme ? Pour qui ?
Pour toi.
Ah, ouvre.
C'est le ministère.
Ah non, ouais, sans blague.
Non, sans blague.
CO2, mon amour.
Présence finalement indispensable ce soir, symposium Bruxelles. Stop. Retour demain midi.
Non. Non ! Cette fois, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non.
Oh ! Attendez-moi !
Bienvenue à Bruxelles. Welcome to Bruxelles.
Sur France Inter.
Pourquoi tu m'appelles? Mais si, ça me fait plaisir, mais je veux dire, je sais que t'es à Bruxelles. Ouais.
Ouais,
bon. Je t'aime. Un, deux, trois.
Même dans un éléphant, ça trompe énormément, et bien ça sent déjà Bruxelles. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 Mon Amour, avec Michel Bézikian aujourd'hui à la technique. Nous avons préparé l'émission avec Élise Hamchin, Camille Blanès, et c'est Jérôme Boulet qui la réalise. Et avant d'aller à Bruxelles, une petite humeur végétale, parce que vous avez toujours rêvé peut-être d'exploser le carré de béton ou d'asphalte qui sert de parking, de libérer le platane du trottoir, des grilles qui le protègent des hommes et des voitures, de cultiver un carré de radis devant votre porte cochère, que sais-je. Alors ne vous gênez pas, vous en avez la liberté, le droit, mais quand même avec un mode d'emploi. Comme il existe un permis de construire, de conduire, de chasser, de tuer un promeneur par erreur, eh ben il existe aussi un permis de végétaliser, accordé par vos municipalités. Donc si vous ne supportez plus de voir chaque année peut-être l'employé municipal exterminé sans round-up, car la loi l'interdit aux collectivités, les violettes sauvages, ombellifères et autres pissenlits qui décorent le bas de votre murette, sous prétexte, comme disent les voisins vigilants, qu'il faut y tenir propre, eh bien rien ne vous empêche de garnir vous-même vos jardinières collectives de mille et un légumes que vous pourrez partager ensuite en circuit ultra court au hasard de la permanente foire aux graines de solidarité du pâté de maison.
Bonjour, ce message pour tous les amateurs de jardins qui n'ont pas la chance d'avoir leur petit coin de paradis dans la ville. C'est les 48 heures d'agriculture urbaine le 4 et le 5 mai dans 13 villes et l'occasion pour les amateurs de jardins de se retrouver dans les rues qui se végétalisent, au pied des arbres, sur les toits, dans les jardins publics et ailleurs. Des ateliers de jardin et de jardinage pour se retrouver en famille, entre amis, entre voisins, partout en France. Le mieux, c'est d'aller sur le site internet 48 heures de l'agriculture urbaine. Merci.
Grenoble, Le Havre, Marseille, Strasbourg délivrent désormais des permis assortis de chartes. À Bordeaux, on peut même demander à la mairie d'enlever un bout de bitume pour faire pousser ses plantes. À Paris, on peut demander que les grilles des arbres soient retirées. Bon, peut-être pas toutes. Dans la mesure où vous ne réintroduirez pas espèces invasives, plantes tropicales, eh bien tout devrait bien se passer. Alors non, cela ne fera pas revenir, bien sûr, la biodiversité qui passe à la moulinette française et mondiale avec une obstination sans faille. Mais justement, si la faille positive, c'était nous. Et vous aurez donc les indications aussi sur le site de CO2 Mon Amour, parce que Choisir avait aussi bien défendu cette affaire-là. Direction Bruxelles, cité flamande à l'origine, totalement francisée au XVIIIe siècle, patrimoine à ciel ouvert pour le centre. Nous ne demanderons pas au Manneken Pis s'il a passé son brevet d'écologie. Non, non, mais on va rencontrer Philippe Claus qui est son maire et des acteurs de terrain qui veulent apaiser et décarboner la ville.
Alors on dort, alors on dort, alors on dort. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, et qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise de dix mondes, dix familles, dix tiers-monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse, alors on danse. Tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse.
Alors on danse, Stromae, natif de Bruxelles, Deterbeck pour être tout à fait précis. Ah bah c'est de là aussi, bah oui bien sûr.
CO2 mon amour.
Allez viens Alex, on embarque Denis chez sous à Bruxelles.
Ce sera plus Denis chez sous, ce sera Denis chez nous. Parce qu'il sera chez nous. Et c'est son nom, c'est chez sous. Bon allez, vite vite, on va sauver la planète en Belgique, à Bruxelles.
Sur France Inter.
Le Thalys Confort 1 et 2 à destination de Bruxelles Midi départ.
8h25,
partira voie 7.
Ah bah c'est pas mal là pour débuter en fait notre entretien, Philippe Claus, parce que nous sommes dans le métro, plutôt à la sortie du métro. Bonjour à vous Philippe.
Bonjour, ben, on est dans la station Bourse Grand Place. On est vraiment à côté de la Grand Place. Alors là, plusieurs choses de remarquables, on vient de la refaire et on l'a pensé déjà multimodal. C'est-à-dire que vous allez voir, il y a un énorme parking de vélo, il y a aussi un endroit où on peut réparer son vélo s'il est en panne. C'est une station extrêmement symbolique parce qu'on a des œuvres d'art importantes. On a un Paul Bury et on a un original de Paul Delvaux aussi, qui sont là. Il y a un vrai Delvaux juste à côté du tram qui est là. Et donc, cette station de métro, elle est à côté de la Grand Place, elle est très iconique pour nous. Et on y a installé des nouvelles fonctions urbaines.
Et juste à côté de la station, le panneau P comme parking, mais il n'y a pas une voiture, non. Il y a un petit vélo comme cible.
Il y a 800 emplacements pour des vélos. Qu'est-ce qu'on a vu dans beaucoup de nos habitants? Ils disent, moi je veux bien me passer au vélo, mais je ne sais pas le mettre chez moi. Alors soit j'ai un vélo pliable, mais bon, c'est pas tout le monde. Où est-ce que je peux ranger mon vélo quand j'habite au troisième étage? Eh bien c'est simple, votre vélo, vous le rangez dans la station de métro. Et donc vous avez soit un parking payant 30€ par an, il est sécurisé, soit un parking accessible à tous, qui est là, vous arrivez avec votre cadenas, vous montez votre vélo, et il est complètement à l'abri. La station de métro est ouverte tout le temps et vous pouvez l'utiliser quand vous voulez et il n'encombre pas votre immeuble.
Eh ben déjà, ça c'est une première bonne initiative. Vélova à Bruxelles, Mabel, mais sans Dick Hanegarde, place de Brouckère, sans Jacques Brel, à la place vous avez des tramways. Alors elle revient de loin quand même cette ville, comme beaucoup de capitales hein, congestionnées qui ont été vendues à la voiture, et elle a envie de changer. Donc rencontre avec son bourgmestre, Philippe Claus, 48 ans, ses échevins aussi qui dirigent cette ville de 170 000 habitants, 1 100 000 habitants pour Bruxelles région et ses 19 communes. Et puis donc des actions environnementales qui méritent d'être présentées, d'où cette émission. Balade reportage dans cette ville en cours, en chemin, vers un peu plus de résilience, car en Belgique, en France et dans le monde, ce sont bien les villes qui ont l'empreinte écologique la plus lourde, mais qui peuvent aussi agir fortement.
Ça va bien? Tout va bien?
Je vais dire bonjour.
Ah ben c'est ça, Philippe Claus. Quand on est le premier magistrat d'une ville, quand on est le bourgmestre de Bruxelles, eh ben on se fait accoster. Et c'est plutôt sympa, d'ailleurs, aussi.
C'est un côté passionnant du métier. C'est la façon dont les citoyens vous interpellent en permanence. Et d'ailleurs, assez positivement. Ils ont des remarques. Ils vivent leur ville. Donc, ils ont envie d'y contribuer positivement. Ils peuvent râler, mais ils râlent aussi parce qu'ils ont envie que les choses changent. Et moi, je trouve ça toujours important de montrer qu'on est à l'écoute et prendre un tout petit peu de temps pour les écouter. C'est une grande partie de mon boulot.
Alors, on est dans le centre historique que l'on connaît lorsque l'on est touriste. Mais c'est vrai que vous pensez votre ville avec beaucoup plus de globalité. Et ce que vous souhaitez, c'est quand même en faire une ville qui est apaisée. C'est-à-dire que c'est une ville qui a donc une histoire, qui a un passé d'ailleurs aussi urbanistique. On parlait de la bruxellisation. Et ça, évidemment, aujourd'hui, c'est plus du tout dans l'air du temps.
Ben, la bruxellisation, c'était les grandes cicatrices de Bruxelles. On a créé une jonction ferroviaire entre le sud et le nord de Bruxelles qui a détruit des quartiers, on a créé des autoroutes urbaines, on a créé un canal. Et donc le boulot pour l'instant de Bruxelles, c'est de penser ses plaies et en fait de réfléchir sur le futur, mais en recréant les maillages urbains. Et c'est vrai qu'on est passé tout doucement d'une ville d'usage qui était Bruxelles à une ville aujourd'hui où les gens ont envie de vivre. Pendant longtemps, on ne se souciait pas très fort de l'habitabilité de la ville, c'était pas très important, c'était le modernisme, et dans le fond, on créait des viaducs au deuxième étage des maisons, des autoroutes urbaines à 6 bandes, ben, tout ça c'est fini, il y a une reconquête de l'espace public pour les citoyens, et qui marche, qui montre que quand on reconquiert cet espace public différemment, quand on priorise les modes de transport, quand on donne une place privilégiée aux piétons, et à le côté apaisant de la ville, eh bien en fait, ça ne nuit pas à l'attractivité commerciale, ça ne nuit pas au côté historique et ça ne nuit pas à l'habitat.
Et vous évitez de faire de la confrontation entre les différents modes de déplacement aussi.
Alors, c'est-à-dire qu'on ne va pas les opposer, mais on va donner des priorités. Il y a un principe qui se développe, qui vient du nord du pays, qui s'appelle le principe stop, je ne vais pas vous le traduire, c'est en flamand, mais en gros, c'est de dire d'abord les piétons, puis les cyclistes, puis le transport en commun et puis la voiture personnelle. Donc aucun des modes n'est absent. Mais il y a une priorité qui est donnée dans l'espace public et dans les voies de communication. Et c'est dans cette façon-là qu'on essaie de raisonner. Vous pourrez prendre votre voiture, mais si vous la prenez, ça risque de vous coûter plus cher et d'être plus long. Le transport en commun, il est efficace si à un moment donné, il est plus confortable et plus rapide. Mais par moment, vous aurez intérêt à aller à pied. Par moment, utilisez votre vélo. Et donc, c'est vraiment de dire, mais chacun a un peu sa place, mais doit réfléchir à son mode de déplacement.
Et puis, vous avez quand même cette idée, vous l'avez en fait concrétisée au départ par une phrase, qui est « la ville à 10 minutes de chez soi ». C'est-à-dire qu'on connaît cette ville, évidemment, qui est internationale, qui est une ville qui est faite avec des eurocrates, avec des classes qui sont pauvres, comme le centre de Bruxelles, avec donc des gens qui sont beaucoup plus aisés, qui sont dans la première, la seconde couronne de Bruxelles. Mais cette ville de proximité, elle n'existait pas vraiment. Et c'est ça que vous êtes en train de faire basculer.
Alors, c'est vrai qu'on avait à la fois la ville d'usage dans les années 50, 60, 70, et puis la ville internationale avec l'Europe qui se construit un peu en devers les quartiers. Et donc chaque fois les Bruxellois se sentaient dépossédés de leur ville. Moi j'ai jamais voulu non plus être quelqu'un qui n'assumait pas la fonction internationale de Bruxelles. Aujourd'hui on est une des villes les plus cosmopolites du monde, un endroit où il y a plein d'institutions internationales, mais en même temps d'en donner envie de cette ville, envie d'y vivre. Et on a développé ce principe de la ville à 10 minutes, c'est-à-dire que c'est assez simple. On se dit que vous aurez envie d'habiter en ville, dans un endroit favorable, dans votre logement favorable, si vous avez aussi à côté de chez vous une crèche, une école, un centre sportif, un centre culturel, des transports en commun, des commerces de proximité, des espaces verts, à 10 minutes à pied de chez vous. Parce que dans la densification urbaine que nous sommes en train de développer, eh bien, on densifie également les équipements collectifs. Et en faisant ça, on améliore l'habitabilité.
Alors, lorsque l'on parle de la ville, c'est toujours une lutte urbaine. Il y a aussi un côté quand même sport de combat, parce que on est tous plus ou moins réfractaires, on n'a pas tellement envie de changer ses habitudes. Alors comment on fait ?
Alors d'abord, il faut essayer de développer une vision intégrée. Ah oui. C'est-à-dire que vous devez arriver avec un projet de ville. Vous ne pouvez pas fonctionner petit bout par petit bout. Donc il faut quand même donner, comme je vous dis, prioriser les modes, expliquer comment on veut préserver l'habitat, trouver l'équilibre entre la dualité de fonction internationale et d'une ville à vivre. Donc il faut proposer un modèle global qui suscite une adhésion. Et puis à travers ça, il faut informer et un contact de proximité permanent. Et c'est vrai que ce qui est la frustration de tous les pouvoirs publics, c'est le temps. En fait, notre plus grand ennemi, c'est pas les oppositions politiques, c'est pas les oppositions qu'on peut avoir avec des riverains ou des commerçants. C'est tout prend trop de temps. C'est notre première frustration. Et donc là, il y a sans doute aussi un débat qu'on doit avoir comme réflexion aussi avec le monde de l'entreprise, puisqu'aujourd'hui, la plupart des grands chantiers ne sont plus effectués par des ouvriers qui dépendent des pouvoirs publics. Et c'est via des marchés publics qu'ils sont privatisés. On doit pouvoir avancer plus vite. Parce que c'est souvent ça qu'on nous reproche. C'est-à-dire, vous avez des beaux projets, mais ils mettent trop de temps. La moyenne, pour être clair, c'est un peu partout chez mes collègues européens la même chose, entre la décision d'un projet et son exécution, c'est 7 ans. Reconnaissons que c'est beaucoup.
Ça va,
bonjour monsieur. Alors, dans le quartier des Marolles, là, je vais rejoindre Lionel Gudry. Bonjour Lionel.
Bonjour Denis.
Alors Lionel, vous êtes responsable d'une société, exactement le titre.
Une société immobilière de services publics, le logement bruxellois.
Alors ça nous intéresse bien, et lorsqu'on arrive ici, en fait, à Bruxelles, il faut un peu dégrossir nos modèles. Lorsque vous êtes à Paris, bah, vous savez que lorsque vous habitez le centre de Paris, vous avez des moyens. Enfin, globalement, c'est ça. Et bien là, c'est l'inverse. Hein. On a quand même des poches de pauvreté, et donc le logement qui est mal isolé, tout de suite, ça pose de gros problèmes. Qu'est-ce que vous avez constaté d'un point de vue énergétique ?
D'un point de vue énergétique, on a des bâtiments qui datent des années 50, des années 60, qui sont extrêmement énergivores. Ce qu'on a constaté, c'est que de plus en plus, la quote-part de provisions pour les charges de chauffage, d'eau chaude sanitaire sont extrêmement élevées et peuvent aller jusqu'à dépasser, voire doubler le montant du loyer. Et ça, c'est une réelle problématique quand on sait que les locataires sociaux sont les gens qui ont les revenus les plus faibles de la société.
Et dans ce genre de cas, comme on dit, il faut être un peu offensif. Donc, qu'est-ce que l'on fait en matière de politique locale ?
En termes de politique locale, on essaye d'avoir un plan extrêmement concret pour les années à venir, avec un plan d'investissement de 37 millions d'euros qui viennent de notre actionnaire majoritaire, qui est la ville de Bruxelles. Et ces 37 millions d'euros vont être utilisés pour isoler les enveloppes de bâtiments. Au total, c'est à peu près 680 logements via le subside de la ville de Bruxelles, où on va refaire l'intégralité des façades, les isoler, venir mettre des menuiseries performantes, vraisemblablement du double vitrage. On va évidemment travailler toute la ventilation, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi la nécessité de rendre l'environnement sain. On va également travailler sur les chaufferies collectives, soit en les remplaçant, soit en les modernisant, de manière aussi à arriver à une performance énergétique équivalente à du basse énergie, voire du très basse énergie.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la compétence de cette isolation n'appartient pas forcément à la commune, quoi. Il n'y a pas une obligation de le faire.
Non, absolument pas. Mais nous avons fait une analyse et nous nous sommes aperçus que sur les bâtiments qui n'étaient pas isolés, une fois que nous avions isolé un bâtiment, c'était une économie nette pour le locataire d'environ 1100 à 1300 euros par an. Quand on sait qu'on a une population qui est particulièrement touchée économiquement, 1000 euros par an, c'est important.
Rue des Querelles. Ah, alors là, on voit un immeuble qui a été refait déjà.
Oui, alors ici on est vraiment sur un site où il y a 400 logements et donc l'ensemble des bâtiments ont été isolés et on a refait intégralement toute l'isolation de la façade. On a recréé des bow windows, des loggias. Je ne suis pas un architecte expert, les experts jugeront d'eux-mêmes, où on a travaillé également sur la ventilation et sur les chaufferies. Et donc on a fait passer ce bâtiment qui était un bâtiment extrêmement énergivore à un bâtiment basse énergie.
Qu'est-ce qui vous plaît, vous, Lionel Gudry, dans cette action et puis aussi dans votre métier au quotidien ?
La première chose, c'est le contact avec les gens, parce que c'est extrêmement riche. Bruxelles est multiculturelle et évidemment, la population de ces logements publics est aussi multiculturelle. Et ça, c'est un regard sur la ville qui est particulièrement intéressant et enthousiasmant. L'autre chose, c'est évidemment le défi. On a besoin de pouvoir rénover plus vite. L'urgence climatique, elle est là. Alors, elle fait peut-être la une des journaux pour le moment, mais c'est une préoccupation qu'on a depuis longtemps. En fait, au logement bruxellois, on a réaffecté toute une série de crédits budgétaires qui venaient de la région en 2008 pour justement non plus refaire des travaux pour changer des composants qui seraient devenus obsolètes, mais pour avoir une réelle politique d'isolation de nos bâtiments. Et les 37 millions d'euros ici vont nous permettre de mettre un coup d'accélérateur sérieux à cette politique.
Alors, ce qui caractérise quand même aussi Bruxelles, c'est la BD. Alors, la BD, on la voit très souvent sur des pignons comme ça, de murs, avec quand même derrière quelque chose de royal.
Tout à fait. Le Palais de Justice, dans la collaboration que nous avons avec notre tutelle, la SLRB, nous avons ce qu'on appelle le programme 101%, le 101e pourcent, qui nous permet de mettre en place des œuvres d'art au cœur de nos sites de logement public. On a plusieurs exemples ici dans les environs. Vous avez là-bas un bâtiment qui s'appelle Brigitine, sur lequel un artiste est en train de travailler sur le pignon pour intégrer une œuvre d'art.
Eh ben, grand merci Lionel. Et puis, bonne suite et bonne rénovation. Hein. Vous avez du...
de la réno sous la planche.
Oui, 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 on a effectivement beaucoup de rénovations puisque le programme va s'étendre jusque 2024-2025 pour les 37 millions de la ville et pour la BEI, si nous obtenons les crédits, jusque 2027. Donc effectivement, 1300 logements à rénover, on a du pain sur la planche.
Alors Philippe Claus, derrière tout ça, il y a l'idée évidemment de décarboner. Mais justement, vous êtes dit, c'est à travers donc ces usages qu'on va y arriver. C'est pas de se dire forcément, allez, on part d'un instant T et puis je veux tant de réduction. Mais c'est en amenant donc vos concitoyens à changer, bah, peut-être principalement la mobilité aussi, et puis aussi le logement. Mais c'est en partant, on va dire, des usages que vous allez y arriver.
Alors clairement, ce qu'on essaye, c'est de ne pas culpabiliser les gens. On leur dit, ben voilà, on veut les responsabiliser aussi. Que ce soit dans l'utilisation d'un mode de transport pour un déplacement. Leur rappeler, quand on fait un kilomètre, on n'a peut-être pas besoin de sa voiture pour faire ce kilomètre. Quand on fait les rues scolaires, par exemple, on a lancé ce projet pilote, c'est des rues où on préserve la qualité de l'air en disant, pendant le moment où on dépose les enfants dans l'école, eh bien, il n'y aura pas d'accès aux voitures aux alentours de l'école. Pourquoi ? Pour des raisons de circulation routière, mais aussi parce qu'on veut préserver la qualité de l'air pendant ce moment-là. Ben, la première responsabilisation, c'est les parents. Qui veut arriver avec sa voiture jusque dans la cour de récré pour déposer son petit bout ? Le papa ou la maman. Donc il faut leur dire, ben, si vous ne faites pas un effort, on ne va pas y arriver.
La rue des Six Jetons, voilà. Autre coin de Bruxelles, et qui m'attend devant une école. Olivier Dazorès, bonjour à vous.
Bonjour Denis, comment allez-vous ?
Bon, écoutez, je vais bien, d'autant plus qu'on a une école maternelle qui s'appelle ?
L'école maternelle du Jardin aux Fleurs.
Waouh ! Alors la ville de Bruxelles, on va rentrer dans cette école maternelle, parce que vous êtes conseiller instruction publique. Et alors ? Quand on parle de mobilité,
ce qu'on fait déjà ici à la ville de Bruxelles depuis déjà plusieurs années, c'est qu'on travaille par projet avec les écoles motivées et enthousiastes pour réfléchir à d'autres moyens de déplacement tant vers l'école que vers les activités périscolaires. Donc les déplacements vers la piscine, on essaie d'accompagner les écoles dans une réflexion sur les modes de transport plutôt doux. Et vers d'autres activités, et notamment vers des activités où les déplacements sont assez courts. Parce qu'on s'est rendu compte que certaines écoles utilisaient le bus scolaire, classiquement, pour des déplacements de moins d'un kilomètre. Ce qui peut paraître un peu absurde.
C'est une folie, quoi, sur moins d'un kilomètre.
C'est effectivement une folie, mais ça nécessite quand même d'accompagner les écoles. Bien parce sûr. Que ici, vous êtes dans une école maternelle, c'est des petits. Et donc, on doit voir et organiser des trajets vers les activités, mais en toute sécurité.
Il faut aussi aider une maman ou bien un papa qui va avoir un ou deux enfants dans les bras, un cartable, etc. Donc,
exactement.
Alors, lorsque l'on parle de vélo cargo, là, c'est encore autre chose.
Alors là, c'est pas directement lié aux enfants, mais on a, sur base d'une demande d'une école ponctuelle, qui voulait acquérir un vélo électrique pour effectuer des petits déplacements quotidiens pour l'école, donc les petites courses, le courrier, etc. L'idée était intéressante. On l'a construite en partenariat avec l'école. Et on s'est dit, ben, si vous le faites pour vous, ben, faites-le pour les écoles à côté de vous, vos collègues. Et à ce moment-là, le projet qui est parti d'une seule école, finalement, on a mis en place une tournée de courriers au bénéfice de 4, 5, 6 écoles qui sont sur le trajet vers notre centre administratif. Alors, tout ça nous a permis de mettre en place, non pas un vélo cargo, mais déjà 3 vélos cargo qui effectuent quotidiennement des tournées de courriers au bénéfice, finalement, des écoles qui sont dans la tournée. Donc, ces écoles ne doivent plus envoyer de personnel soit à pied, en transport en commun, en voiture, en mobylette. Et donc, on soulage les équipes des écoles et on ne rallonge que peu le temps du personnel qui conduit le vélo cargo.
Alors, tout ça, en fait, fait partie du plan climat, en définitive. Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir une ville qui est plus apaisée, d'avoir une ville qui est moins polluée et une ville qui va émettre moins de CO2.
Mais in fine, c'est l'objectif. Et d'accompagner aussi ces changements de moyens de transport. Donc, les changements de comportement, ce sont les changements qui mettent le plus de temps à voir le jour. Et donc, on doit accompagner nos parents, on doit accompagner notre personnel aussi à changer ses habitudes de transport vers son lieu de travail. Et tout ça, réuni, permet quand même d'avoir une action sur le terrain. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que de plus en plus, on équipe nos écoles de capteurs de mesure de la qualité de l'air, notamment à l'entrée par laquelle on est rentré, et également dans certaines cours intérieures d'école, de manière à voir le différentiel aux heures de pointe, de la pollution de l'air à l'entrée, dans la cour, etc. Parce qu'on est dans une ville.
Donc on le voit.
Et donc on le mesure, et sur base de ces résultats, ça nous permet aussi de mesurer si nos projets de blocage de rue sont efficaces aux heures de fermeture.
Ouais. Alors ils sont tous dans la cour. Alors c'est assez marrant parce qu'il faut justement, il y en a plein qui font du tricycle. Donc ah, on les habitue.
Ah voilà, ça fait partie de l'apprentissage psychomotricité. Donc il y a des tricycles à disposition. Il y a plein de moyens de déplacement et c'est laissé à la liberté des enfants.
Olivier, vous avez d'autres idées quand même ?
Eh bien oui, on voudrait mettre en place une vélothèque à disposition des enfants, c'est-à-dire acquérir une flotte de vélos pour permettre l'apprentissage du vélo. Parce que là, ce que vous avez vu, ce sont les tricycles pour les petits de maternelle.
Ça, c'est le B.A.B.A.
Ça, c'est le B.A.B.A. Mais plus tard, on accompagne nos élèves de 8-10 ans dans le passage du brevet vélo. Mais la difficulté, c'est que chaque famille ne dispose pas en milieu urbain, dans une ville, d'un vélo aux normes adapté à l'âge de l'enfant. Et donc, on se rend compte que ben, on doit pallier à ce manque. Voilà.
Écoutez, formidable, Olivier. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Puis moi, je vais poursuivre ma petite virée bruxelloise.
À bientôt. Merci.
CO2, mon amour, avec Denis Chessou sur France Inter.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin, je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie, parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout haut, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
N'existe pas sans son contraire. Une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel. Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul. Vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. L'esprit n'est plus à moi. C'est pas compliqué d'être heureux.
Sœurs et frères, c'était Angèle et Roméo Elvis, tout oublié. Ah bah oui, c'est vraiment spécial belge, hein, qui nous a concocté aussi, donc Thierry Dupin. Qu'est-ce que j'ai sous le coude? Oh, j'ai avoir une petite forêt aussi à suivre, la forêt du Neder ou des Rennbeck. Et puis, on continue. Allez, on y va. Vous êtes bien sur France Inter, c'est Haut de mon amour, c'est Bruxelles.
Tu vois, ici, on est dans un quartier à majorité de vieilles personnes. Hein. C'est-à-dire que les urbanistes conçoivent des logements dits sociaux.
CO2, mon amour.
C'est-à-dire des logements faits pour les jeunes.
Denis Chessou.
Pour les ouvriers, pour les ménagers, mais aussi peut-être pour les chômeurs. Hein. Tout ceci dans le plan d'une restructuration des plans de secteur visant à vaincre la solitude.
Sur France Inter.
C'est une chouette idée. Mais où je ne suis pas d'accord. Et c'est là qu'est la faille. C'est comment peut-on concevoir des habitations sociales sans la moindre recherche esthétique? Ça n'est pas possible, hein.
Un petit coup de poulevard, hein, ça fait jamais de mal. Mais lui, je ne l'ai pas rencontré au cours de cette émission. Non. Ah, il y a du bruit? Non, il y a du son. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la grande place.
Bon, alors cette place quand même. Quelques mots, faisons un peu de tourisme, Philippe Claus, parce que c'est, on va dire c'est la vôtre, hein, c'est celle vraiment de toutes les personnes qui sont là. Alors, on a l'impression que quand on est dans le coin, on est dans une énorme chocolaterie, on est dans une énorme gaufre, voilà. Mais il y a quand même des choses très importantes qui sont passées sur cette place.
Bah, d'abord, on est très fiers de l'avoir complètement rénovée maintenant. On a refait le plan lumière, là, c'est un Français, Patrick Rémoux, qui a refait l'ensemble du plan lumière de la Grand Place. On a refait l'ensemble des façades. Et c'est vrai que bon, elle est classée patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est pas par hasard. Et je dois avouer que je travaille ici depuis 18 ans et chaque fois que je sors, c'est un émerveillement, quoi. Donc c'est vraiment un endroit patrimonial absolument superbe, avec un style très particulier, mais voilà, incomparable.
Je vous ai pas embêté avec le Mannequin Peace. Je sais pas du tout si ce petit garçon est très écologique. Je crois que maintenant, il fait
non, on a eu un gros problème avec lui, c'est qu'on a découvert une fuite. Alors c'est né aussi de nos programmes systémiques où maintenant on a vraiment des fonctionnaires qui sont chargés de réfléchir à la déperdition d'énergie, à tout ce qui peut être lié au développement durable. Et en fait, on a remarqué qu'il y avait une énorme fuite, pas mal pour le Mannequin Peace, qui faisait qu'il consommait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, il ne fonctionnait pas en circuit fermé, sa fontaine. Et donc, voilà, on a résolu ce problème.
Donc, maintenant, ça marche en circuit fermé. Voilà. Et je crois qu'il ne pisse pas de l'eau potable, en plus. Hein, donc,
Alors, c'est une eau plus ou moins potable, et donc, il ne faut pas spécialement la boire. Et alors, il a un petit miracle aussi, quand on inaugure certains costumes, on peut même brancher un fût de bière. Vous savez que la Belgique est un pays de bière. Eh bien, il est même possible que le Mannequin Peace pisse de la bière lors de certaines inaugurations.
Philippe Claus, quand même ici on garde le pavé, alors il est très bien égalisé, hein. C'est pas du Paris-Roubaix, hein, mais voilà, donc, mais parce que pour le caractère quand même de la ville...
Alors c'est la zone historique, là on a gardé du pavé qui n'est pas le matériau le plus idéal, que ce soit pour le vélo, que ce soit pour les poussettes, que ce soit pour les personnes en chaise roulante, mais c'est vrai qu'on est à côté de la Grand Place où les pavés sont extrêmement connus, et donc il y a quelques rues où on préserve le pavé, et alors ce qu'on fait si ces rues sont carrossables, c'est qu'on utilise maintenant des pavés sciés, qui permettent sur les pistes cyclables où il y a quand même du pavé de garder l'aspect visuel, mais de permettre au vélo de circuler de façon agréable.
Et vous allez voir le Tour de France qui va quand même passer là. Hein.
Alors on va avoir le Tour de France, donc grand départ quand même, 6 et 7 juillet. On est très très fiers de ça. Vous savez qu'on fêtera les 50 ans de la première victoire d'Eddy Merckx.
Eddy Merckx, 69.
Voilà, notre star nationale. Et on aura donc tous les grands coureurs, le Tour de France. On est très touchés par ça parce que, vous savez, on a des liens évidemment avec nos cousins français extrêmement forts, mais la Belgique c'est un pays de cyclisme. On l'a encore vu avec Paris-Roubaix et la victoire de Philippe Gilbert, mais le vélo c'est très important chez nous, le sport vélo. Et le fait d'accueillir le Tour, qui est quand même le plus grand événement vélo du monde, ici sur la Grand Place, ça émeut beaucoup les Belges. En fait les Belges qui étaient un peu placés modestes, là il est vraiment fier de pouvoir accueillir le monde entier dans le fond.
Et vous ce que vous essayez de faire, c'est de mettre les gens du quotidien sur un vélo du quotidien.
Ça va bien ? Tout va bien ? Je vais vous dire bonjour. Alors ce qu'on essaye de faire avec le vélo, c'est de dire aux gens... on veut sécuriser les pistes cyclables. Pendant longtemps, on a considéré, dans les années 90-2000, les associations de vélo disaient « nous avons notre place dans la circulation, nous devons trouver notre place ». C'est les fameux sas qu'on met devant les feux rouges, c'est les pistes cyclables qui sont dans la circulation. Et on s'est rendu compte que ça marchait assez mal, parce que les gens ne passaient pas le cap. Ils avaient peur de passer sur le vélo. Et c'est vrai que quand vous êtes avec vos enfants, pour trouver au mieux la circulation, ça ne marche pas. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est des pistes cyclables sécurisées, à côté de la voirie. Et donc, aujourd'hui, on développe des itinéraires cyclistes régionaux qui traversent différentes municipalités de Bruxelles pour que les gens, dans leur transfert de mode, se disent « il y a aussi le vélo, il y a aussi un moment où je vais utiliser mon vélo ».
Philippe Claus, est-ce que nous sommes dans une ville minérale? Est-ce que nous sommes dans une ville qui est verte? Comment ça se répartit?
Alors, Bruxelles est une des villes les plus vertes d'Europe, mais de nouveau avec des principes qui sont concentriques, qui ne sont pas les mêmes partout sur son territoire. Tout comme je vous expliquais que nos pauvres sont plutôt dans la première couronne de Bruxelles, notre pauvreté, donc notre banlieue elle est à l'intérieur de la ville, c'est la deuxième couronne qui est très très verte. Et donc on a de nouveau les quartiers plutôt populaires qui n'ont pas d'espace vert ou très peu d'espace vert, et les quartiers plus bourgeois, plus hauts revenus, qui eux ont beaucoup beaucoup de parcs et d'espaces verts, de jardins privatifs. Donc tout le boulot de nouveau dans le remaillage qu'on doit faire, c'est à la fois de créer des maillages verts où on peut se promener d'un parc à l'autre dans la ville,
et on a développé ce qu'on a appelé les pocket parks, donc les parcs de poche. C'est-à-dire dans des petits endroits dans la ville, vraiment mettre quelques arbres, un petit espace vert, un petit banc, ces moments de respiration. Parce que c'est ça aussi une ville, c'est qu'entre un quartier et un autre, il faut des moments de respiration où on peut se poser. Raison pour laquelle l'espace vert, en tout cas, joue un rôle déterminant.
Et puis vous avez aussi ouvert, sous forme de travées, des anciens immeubles qui tenaient plus la route, ce qui fait qu'on a des ouvertures aussi.
Alors aujourd'hui, c'est toujours la notion dans une ville de décloisonner. Tout le monde doit décloisonner les quartiers pour qu'ils ne deviennent pas des ghettos. Notre chance est d'avoir donc ces banlieues dans la ville qui fait que l'on passe d'un quartier à l'autre en fait assez facilement et sans s'en rendre compte. Dès qu'on peut créer des ouvertures, des percées, des choses qui font que les gens se rencontrent, parce que dans le fond, la ville, c'est quoi? C'est la rencontre, en fait. Si vous arrivez à ce que les gens se rencontrent, votre ville, elle va aller bien. Si les gens restent cloîtrés chez eux, ça va aller mal. C'est ce qu'un urbaniste français appelle les villes SAS ou NAS. Soit vous êtes un SAS qui permet de passer d'un quartier à l'autre, soit vous êtes une NAS qui vous enferme dans votre quartier et qui permet de ne pas se développer. Moi, je suis très influencé par ces deux notions parce qu'elles me parlent énormément dans la façon dont dans mon boulot, je dois créer tous les SAS possibles dans les différents quartiers de ma ville.
Ah, alors là, je suis accueilli par un canard. Bonjour mon pépère. Vas-y. Voilà. Bon, écoute, je vais te laisser parce que je vais pas faire toute l'interview avec toi malgré tout. Même si le discours est intéressant à côté de cette petite mare. Alors là, rupture, hein. Vraiment silence ici. J'arrive en marchant sur ce caillebotti. Bonjour Saskia Letoun.
Bonjour Denis.
Alors Saskia, donc vous êtes vous coordinatrice de la cellule développement durable donc ici à Bruxelles. Alors c'est très étonnant parce qu'en fait on est encore à Bruxelles là.
Oui, c'est impressionnant. Hein. On est dans notre petite forêt urbaine que la ville de Bruxelles est en train de développer au nord du territoire, qu'on développe depuis maintenant une dizaine d'années. On est à une vingtaine d'hectares et on va arriver à 40 hectares dans quelques années. Donc voilà, et là on se retrouve en effet avec les oiseaux. Comme si on était à la campagne.
Alors quand on parle de forêt participative, ça nous intéresse bien. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que en fait, les espaces verts organisent régulièrement des plantations avec des habitants et des enfants des écoles. Donc plusieurs fois par an, quand on est habitant de Neder-Overenbeek, on vient ici et on plante ces petits arbres que l'on verra grandir. Et régulièrement, les enfants des écoles viennent pour une demi-journée. Pareil, pour planter, alors ils apprennent comment on plante un arbre, ils apprennent comment on gère une forêt, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, et voilà.
Et donc il y a une appropriation de cette forêt après?
C'est ça, et le but est vraiment en effet que les personnes se disent « Ah ben ça c'est des arbres que j'ai plantés et je vais y faire attention, je ne vais pas les abîmer ».
On est dans un endroit, on l'a compris, donc marécageux, parce que là j'ai eu affaire au canard qui était donc le gardien.
À l'entrée.
Alors on imagine quoi au départ, donc des aulnes, qui est souvent un arbre pionnier dans ces coins-là?
Oui, c'est ça. Au départ, elle était là et elle était en danger en fait, l'aulnée marécageuse. Et il y a eu une décision de la sauver en plantant autour en fait. Et ça c'était une décision qui a été prise aussi bien par la ville de Bruxelles que pour la région, de se dire cet habitat est trop important que pour le laisser disparaître. Il y a quand même une pression assez importante au niveau du logement à Bruxelles. Il faut savoir que la population de Bruxelles augmente très très vite et on a besoin de construire. On a besoin de construire des écoles, on a besoin de construire des crèches, mais on a aussi besoin de construire des bâtiments, du logement. Et en fait, comme Neder-Overenbeek était le dernier endroit le moins construit de Bruxelles, on a beaucoup construit ces derniers temps ici. Et donc il commençait à y avoir quand même une forte pression sur les espaces verts restants. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette nécessité aussi de particulièrement protéger cette forêt marécageuse. Et donc la volonté ici des espaces verts de la ville de Bruxelles, de cette petite forêt, c'est donc d'en protéger une partie. Donc une partie, on ne pourra pas y aller parce qu'il faut laisser la nature se développer tranquille et toute seule. Et une partie est accessible via ces caillebotis sur lesquels nous marchons, qui sont assez agréables. Moi j'aime bien, je trouve que ça fait un peu bord de mer, hein, les caillebotis.
Et cette forêt, c'est une des pièces du puzzle du plan climat de Bruxelles.
C'est ça, la ville de Bruxelles s'est engagée en signant la Convention des maires en 2016. On l'a fait de manière participative, c'est-à-dire qu'on a organisé des ateliers pour demander aux Bruxellois et aux Bruxelloises ce qu'ils voulaient voir arriver dans leur ville, quelles étaient les actions qu'ils voulaient voir, qu'est-ce qu'ils trouvaient le plus important. Ensuite, on a fait aussi beaucoup de participation à l'intérieur de l'administration. On a demandé aussi aux personnes qui travaillent à la ville de Bruxelles ce qu'elles voulaient voir dans ce plan climat. Ouais. Et c'est très très chouette. On a pu vraiment partager avec nos collègues, avec les habitants. On a récolté plusieurs centaines d'idées. Et donc, on a les grandes thématiques qu'on a voulu développer et sur lesquelles on travaille depuis longtemps, c'est l'énergie. On va travailler beaucoup sur les espaces verts, hein, comme vous voyez ici, la forêt. Mais aussi, on veut donner aux Bruxellois et aux Bruxelloises l'occasion de planter eux-mêmes.
Le permis de végétaliser, donc.
Le fameux permis de végétaliser.
Alors, à vos côtés, Anne-Sophie Denayer, qui connaît bien le problème des plantations. Je dis ça parce que vous, en fait, vous vous occupez aussi de cela, mais sous forme de solidarité internationale à la ville de Bruxelles. C'est pas forcément le budget le plus important, mais c'est fondamental aussi de mettre en lien les petites Bruxelloises, les Bruxellois, avec ce qui peut se passer ailleurs, et en particulier au Sénégal.
Oui, tout à fait. À un moment, la ville a décidé, pour chaque naissance à la ville, de planter un arbre au Sénégal. Elle a démarré une collaboration avec l'université, avec l'ULB, qui plante des palétuviers dans des mangroves. Et en tout cas, ça permet d'impliquer les populations locales, de diminuer la pression sur les forêts au Sénégal, dans le delta du Saloum. Et ça permet pour la ville de Bruxelles de s'engager un peu au-delà de ses frontières, parce que voilà, le problème du réchauffement climatique, en tout cas, touche parfois en premier lieu les populations du Sud. Et donc, on veut juste apporter une petite pierre à l'édifice.
Et puis, quand on est quand même dans une ville qui a 185 communautés différentes, je pense que dire que ça s'impose, ça va de soi. Quoi, donc,
C'est vrai que ça va de soi. Je pense qu'il y a beaucoup de liens entre Bruxelles et le reste du monde, ça c'est clair.
Ah, c'est très joli quand même, ce mot-là de forêt urbaine. Quoi. On se dit, ah ouais, c'est presque un oxymore. Pas du tout. Non.
Oui, c'est vrai. Le terme de forêt urbaine, c'est assez rigolo. Il s'adapte bien ici, parce que la forêt, on ne se rend pas compte, cette petite forêt, elle est vraiment entourée de pâtis, en fait. Hein. Elle est au nord de Bruxelles, et tout de suite après commence la région flamande avec une autre ville qui s'appelle Vilvoorde. Et donc, si on regarde cette forêt d'en haut, on s'aperçoit qu'elle est complètement entourée. Elle est à l'intérieur de la ville, en fait.
Oh, un petit hôtel à insectes, là. Sympa, là. Eh ouais. Des nichoirs,
ouais.
Ouais, faut aider un peu la nature quand même de temps en temps. Bon, un grand merci, Saciel Etoun et Anne-Sophie Denayer. Puis moi, je vais continuer mon chemin dans Bruxelles.
Et merci à vous d'être venu nous voir. Nous allons retourner voir notre ami le canard, voir un peu comment il va, comment il a apprécié votre visite.
Bon, il nous dit qu'il est très très heureux dans cette forêt urbaine. Je résume ta pensée. Oui, parce qu'en fait, je tutoie les canards. Voilà, donc c'était une petite page de nature, là aussi, avec Bruxelles. Alors j'espère que vous êtes bien, tout va bien. Vous avez aussi, au sud de Bruxelles, on le sait, hein, la forêt de Soignes, là, qui est beaucoup plus importante. Et c'est intéressant de voir que l'on reprend, là encore, on revégétalise, et on fait donc aussi du bien à la nature. Donc on poursuit notre voyage, c'est autre façon de regarder Bruxelles. Philippe Clos, où en est globalement, on va dire, l'écologie ici? On sait que vous avez alors des étudiants et des étudiants très motivés et qui vont donc sur le climat. Voilà, ils ont été tout à fait contagieux, ça c'est une excellente chose. Mais où est-ce qu'on en est, quoi?
Alors on est plein de paradoxes en Belgique, parce qu'en même temps, si vous discutez avec le Belge, ce qui lui importe beaucoup, c'est sa maison et sa voiture. Ce sont les deux salons qui fonctionnent le mieux. Donc on n'est pas exempt de paradoxes, on n'est pas au niveau de Copenhague, très clairement, on n'est pas au niveau d'Amsterdam, mais on est dans une mutation. Je dis toujours qu'on est au stade de la chrysalide, donc le papillon il n'est pas encore là, mais on n'est plus au niveau de la chenille. Et donc tout le monde a une grosse prise de conscience par rapport à ça. Le vrai enjeu, ce sera de nouveau d'en faire un projet collectif. C'est pas juste, moi aujourd'hui le matin je décide de prendre mon vélo. Non, c'est comment globalement on va penser le climat, mais aussi la santé des Bruxellois. Parce que ce qu'on oublie toujours, on parle toujours de la mobilité, de la congestion, c'est les problématiques liées à la santé, la qualité de l'air. Ça, pour moi, c'est le débat essentiel, c'est que notre population aille mieux. Et ça, c'est un projet collectif.
Philippe Clos, qu'est-ce qu'il faut, en fait, oublier lorsque l'on est dans une ville comme Bruxelles et peut-être aussi en Belgique, par rapport, soit, comme on dit, à la gouvernance, et puis aussi par rapport, donc, au nombre de communautés qui peut exister ici?
La Belgique est un pays qui est à côté, un peu fait de briquet de broc depuis toujours. Donc on est né en 1830, même si on avait un passé. Tous les pays d'Europe nous ont un jour gouvernés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est devenu une des villes les plus internationales du monde, avec ses 184 nationalités. Mon boulot, c'est de tracer des ponts entre les communautés. C'est de voir comment on peut rapprocher, notamment, les fonctionnaires européens avec les habitants des quartiers populaires. Vous savez que la pauvreté est dans notre ville. Les banlieues sont plutôt riches à Bruxelles. Et la pauvreté est plutôt juste à côté du centre. Souvent, Molenbeek, par exemple, c'est juste à 300-400 mètres de la Grand Place. C'est pas du tout en dehors de la ville. Et c'est un quartier qui est dans une dynamique incroyable. Et donc, le boulot, c'est vraiment d'arriver à mixer cet ensemble. Et ça passe notamment par la rénovation urbaine et par les ponts qu'on peut tracer entre les communautés. L'autre aspect, c'est également dans la consommation énergétique. Et alors là, les gens ne sont pas égaux. Vous avez les populations qui sont plutôt propriétaires, qui peuvent décider d'isoler, qui peuvent travailler en effet sur une consommation réfléchie ou ralentie. Et puis vous avez ce que moi j'ai appelé les oubliés du climat, c'est-à-dire ces populations extrêmement précarisées qui dorment et qui vivent dans des logements sociaux, qui eux ne peuvent donc pas intervenir par rapport à cela. Et nous avons décidé d'entamer un grand plan de rénovation et d'isolation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, 60% des gaz à effet de serre, c'est le chauffage. Beaucoup plus que la voiture, qui représente 20%. Et donc c'est le mix à la fois des comportements, mais aussi l'action collective qui est importante. Jamais distinguer les deux. Il faut toujours, dans un projet de ville, une action collective.
Bonjour.
Ça va.
Bonjour, monsieur.
Alors, un autre lieu de Bruxelles. On va aller plutôt vers le sud. Et là, c'est le quartier des Marolles. Alors, il faut toujours y aller à pied. Oui, Bruxelles, ça se visite à pied, ça se visite à vélo. Alors, vous avez un métro qui passe, là, d'ailleurs. Et ce qui nous intéresse bien, c'est que juste à côté de l'entrepôt du vin, ancienne cité du vin pour être précis, et ben vous avez un marché bio. Alors faut dire ici qu'on est dans un lieu où vous avez une quarantaine d'entreprises, de start-up qui se sont installées. Et il y a ce marché bio, donc je ne vais pas dire qu'il est étonnant, mais on va comprendre pourquoi. Ronald de Grève, bonjour à vous.
Bonjour Denis.
Alors Ronald, vous avez installé ce marché bio, donc déjà depuis c'est une bonne dizaine d'années, non, c'est ça?
Le marché bio est actif ici depuis environ 8 ans, effectivement.
Et alors comment il est né?
Alors, il est né tout à fait par hasard de coopérateurs bio siciliens, ouais, qui souhaitaient faire ici une plateforme de distribution de paniers bio dans la ville avec des véhicules propres, donc des véhicules électriques. Ouais. On leur a suggéré d'ouvrir leur stock à la clientèle locale, ce qu'ils ont commencé à faire au départ le dimanche, parce que le dimanche, c'est un quartier ici qui est un quartier de grande chalandise. Et c'est comme ça qu'ils ont été dépassés par leur succès. Ils ont abandonné les paniers et les clients pouvaient venir se servir en direct dans le stock. C'est le début de l'histoire.
Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est ici dans un quartier populaire, donc on n'est pas exactement chez les bobos, que c'est rempli de monde. Là, je le vois vraiment avec toutes ces couleurs merveilleuses de n'importe quel marché, avec le vrac qui va bien et avec des prix qui ne sont pas excessifs, du tout.
Non, effectivement, les prix ne sont pas du tout excessifs. On doit dire évidemment qu'on est ici dans un bâtiment public et donc on pratique des prix location qui sont très certainement en dessous du marché. Et la particularité de l'acteur ici, c'est qu'il achète en circuit court auprès des producteurs et qu'il pratique une distribution, une gamme de produits relativement étroite. Donc ce sont les composants de ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Donc il n'y a pas ici de produits préparés. Donc on ne va pas trouver par exemple de la lasagne ni de la pizza.
Ouais.
Mais par contre, vous avez les composants de tout ce qu'il faut pour pouvoir cuisiner, que ce soit les fruits, les légumes, les laitages, les fromages, les produits qu'on appelle les secs, donc les céréales, de l'huile, tout ça.
Et donc c'est un modèle qui fonctionne. Alors, c'est évidemment pourvoyeur d'emploi, ce qui est intéressant.
Absolument, c'était une des volontés du propriétaire du bâtiment, qui est le Centre public d'action sociale de la ville de Bruxelles, donc qui veut faire de ce lieu, ici, l'ancien palais du vin, donc actuellement le centre d'entreprise des ateliers des tanneurs, un outil de redynamisation économique et sociale locale. Et donc, effectivement, on héberge ici des entreprises qui ont un potentiel d'emploi peu qualifié.
Et puis, Ronald, est-ce qu'aujourd'hui, donc, on apprend aussi aux gens donc à cuisiner?
Oui, il y a effectivement des ateliers qui s'organisent ici autour du marché. Il y a vraiment une dynamique tout à fait vertueuse, à la fois d'éducation et de citoyenneté durable.
CO2 Mon Amour sur France Inter.
Something good, but cutting out the heart is what you do.
wrong vibration.
Balthazar avec ses mauvaises vibrations, ben non, ils sont plutôt bonnes là sur France Inter. Balthazar donc belge d'origine flamande et néanmoins francophone et ami, nous dirait Charline et Alex qui supervisent bien sûr cette émission. Alors volonté, action politique, maillage d'action, et ça n'empêche pas donc Philippe Claus que être élu, ça n'empêche surtout pas d'être un homme d'utopie.
Ben, si on n'a pas d'utopie, on n'a pas le projet de ville. Parce que si vous êtes là pour gérer le réel, ça n'a pas d'intérêt. On n'est pas élu pour gérer le réel, on est élu pour justement pousser à une ville vers plus d'égalité, plus de solidarité, où il fait mieux vivre. Et donc oui, il faut des projets un peu fous. Je trouve que parfois les urbanistes et les géographes ou les architectes ne nous poussent pas dans nos retranchements. Nous, les hommes et les femmes politiques, on nous a trop longtemps cantonnés à un rôle de gestion. Moi, je considère dans une ville, et c'est souvent la marque des villes, la marque des maires, notamment en France, c'est d'avoir une vision, d'avoir projeté leur ville 30, 40, 50 ans plus loin. C'est ça. Alors, l'utopie, elle est à ce niveau-là, à l'échelle d'une ville. Quand vous décidez un plan d'affectation urbanistique, vous ne le décidez pas pour 5 ans, quoi. Vous allez vraiment vers une vision qui va beaucoup plus loin. Et là, il faut chercher une adhésion vers un programme qui rassemble sur ce que doit être la ville idéale.
Alors, une ville idéale, un Bruxelles idéal, qu'est-ce que ce serait ?
Sa force aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir ce côté cosmopolite. Je pense que c'est une énorme force, quoi. Le fait que quand vous venez à Bruxelles, il y a toujours quelqu'un qui parle votre langue, vous pouvez le croiser. Et alors, bah, soyons clairs, moi, dans mon ADN, c'est l'ADN social, c'est la lutte contre la pauvreté, qui est une meilleure redistribution des richesses. On est une ville extrêmement riche, qui est sans doute le troisième PIB par habitant dans les villes d'Europe. Mais par contre, au revenu par habitant, on tombe dans la 25e, 26e place. Ça ne va pas, évidemment. Donc moi, mon boulot, c'est de réconcilier aussi tout cela pour qu'il y ait un peu plus de solidarité dans la ville, quoi. C'est une de mes principales priorités.
Cette histoire, c'est à la fois le projet d'un homme, mais aussi d'une association, d'une communauté humaine.
Alors, ce qui est très important, je pense qu'on a vu beaucoup dans les années 90 et les années 2000, l'émergence des droits individuels. C'est Marcel Gauchet qui le dit, votre philosophe, qui est quand même extrêmement interpellant là-dessus, qui dit « attention ». Travailler uniquement sur les droits individuels sans travailler sur les droits collectifs, ça n'est pas un modèle de société très intéressant. Et bien c'est ça un projet de ville. À un moment donné, vous devez réfléchir aux situations individuelles de vos habitants, mais ils doivent s'incarner dans un projet collectif. Et c'est la même chose pour le développement durable. Ça n'a pas beaucoup de sens de dire aux gens « ne consommez plus de plastique, mangez bio et roulez à vélo » si à un moment donné, vous ne réfléchissez pas à l'ensemble, la façon dont on va pouvoir travailler aussi sur les personnes qui n'ont pas toujours les moyens d'avoir accès au développement durable. Les premiers écologistes dans une ville, c'est les populations précarisées, hein. Ils voyagent pas en avion, ils consomment beaucoup moins que les autres. Ils ne sont pas à jeter des choses dans tous les sens parce qu'ils n'ont pas les moyens, quoi. Il faut pouvoir travailler avec eux aussi à amener la ville à une plus grande solidarité. Cette solidarité, elle passe par le développement durable et le développement durable passe par la solidarité.
Bon, un grand merci Philippe. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
Ben, on peut souhaiter qu'on continue à avoir des belles ambitions pour cette ville et redire à tout le monde que Bruxelles, avant toute chose, c'est la capitale de 500 millions d'Européens où tout le monde est le bienvenu.
Au revoir Philippe Claus.
Au revoir Denis Chessou.
Une ville encore chrysalide, il l'a dit, hein, pas papillon, mais ça nous intéressait donc de voir le chemin qui était actuellement donc effectué. Il n'y a pas que cette ville-là, mais c'est quand même intéressant de parler de cette ville, de cette capitale européenne. Merci donc à Lionel Gaudry, à Sassia Latoun, à Anne-Sophie Denayer, à Olivier Dasdorès, à Ronald De Greff, à Wafa Amish, à Philippe Claus, donc bien sûr le maire de Bruxelles, à Ariella Masbounji. Et puis pour nous, bah, merci à Michel Bézikian et à Julien Dumont. Nous avons donc préparé cette émission avec Elisa Mchin et Camille Blanès, et merci pour l'excellente réalisation pleine de subtilité de Jérôme Boulet. Thierry Dupin a choisi les disques, Anne Gouzon a nourri les sites, et puis ben, la semaine prochaine et ben, ce sera Fred Vargas qui sera donc à ce micro avec un joli petit coup de gueule par rapport à l'environnement. Je vous souhaite un excellent week-end, que le meilleur vous porte, et dans quelques instants ce sera la librairie francophone avec Emmanuel Kérad.